Tous, ça va toujours bien? Il y en a 8 qui vont bien, une de mieux en mieux. Est-ce que ça va bien? Super. Donc, ce matin, le texte que Jeff va nous apporter, c'est dans Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 20. Donc, Éphésiens 4, à partir du chapitre 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que sa parole soit bénie.
Alors, je vais de le saut. Alors, y en a-tu ici dans la salle qui connaissent ma mère? Hein? Oui, il y en a pas mal. Ma mère, c'est une personne exceptionnelle. Puis elle a beaucoup de grandes qualités. Mais une de ses plus grandes qualités, je dirais, là, c'est qu'elle est organisée. Vraiment, là, si vous connaissez ma mère quand même bien, là, vous le savez. Ma mère est très, très bien organisée. Il fallait qu'elle soit. On était 7 enfants chez nous. Je pense pas qu'on aurait survécu si ma mère n'était pas bien organisée. Puis une des façons qu'elle s'y prend pour être organisée, c'est qu'elle fait des listes. Si vous rentrez chez nous, là, vous allez dans le bureau à ma mère, vous allez voir, elle a une liste là, sur son bureau. J'étais à voir un matin quand elle a vu le titre de mon message. Là, tout de suite, elle savait là, que j'allais la prendre en exemple, à cacher ses listes qu'elle avait. Elle a une liste sur son bureau là, de ses choses à faire. C'est tout divisé, personnel pour sa comptabilité, pour tout ce qu'elle fait, pour toutes les affaires qu'elle fait, tout bien divisé. Elle a une liste sur le frigidaire. On a une liste menu de la semaine qu'elle planifie une semaine en avance. Elle regarde tout ce qui est en spécial. Elle achète les choses en conséquence. Super bien organisée aussi. Jamais on partait en voyage quand on était jeunes. Mes frères et sœurs sont là, vous en souvenez bien. Hein? Quand on partait en voyage, ma mère nous imprimait une liste de ce qu'on amenait. Là, tu sais, 3 paires de bas, 3 paires de pantalons. Tout ça, elle nous imprimait ça. Elle l'avait enregistré dans son ordinateur. Elle faisait une belle liste de choses à faire. Comme ça, on était assurés, on n'oubliait rien. C'était vrai. Ma mère, c'est super pour ça. Toujours très, très, très bien organisé. Puis, c'est ça, ce qu'on a ce matin, c'est une liste de choses à faire. Une liste de choses à faire et à ne pas faire. C'est super que Dieu ait mis ça dans la parole, parce que comme ça, on n'oublie rien. Dieu nous a donné des listes de choses à faire dans sa parole, pour pas qu'on oublie rien. Comme quand nous autres, on était jeunes, quand on partait en voyage, maman nous donnait une liste pour pas qu'on oublie rien, pour pas qu'on amène de quoi de trop. De la même façon, Dieu fait ça pour nous. Alors, c'est ça qu'on a ce matin. Une liste de choses à faire et à ne pas faire. Mais maintenant, il y a des dangers quand on regarde une liste de même. Il y a des dangers. Les dangers avec une telle liste, premièrement, c'est de penser qu'on est des bons chrétiens juste parce qu'on suit une liste. Ça, des fois, là, on voit ça. Chaque personne dans notre tête, là, on a une liste. On a une liste de choses qu'il faut faire, on a une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Chaque personne ici, vous en avez une. Peut-être que sur votre liste, vous, c'est moi, il ne faut pas que je bois, faut pas que je fume. Puis moi, je suis bon parce que je suis un bon chrétien, parce que moi, je bois pas puis je fume pas. Lui, c'est pas un bon chrétien parce que lui, il boit puis il fume. Fait que c'est pas un bon chrétien. Des fois, ça peut être ça sur notre liste. Ça peut être d'autres choses. C'est pas nécessairement des mauvaises choses qu'on a sur notre liste. Mais chaque personne ici a une liste. Le problème, c'est quand on décide, moi, je suis un bon chrétien parce que je suis ma liste. Et toi, tu n'es pas un bon chrétien parce que tu ne suis pas ma liste. Et un autre danger que je pense qui est encore plus grand, c'est de penser qu'on est chrétien, tout simplement, parce qu'on suit une liste. Il y avait un groupe de personnes dans la Bible, qu'eux autres, il y avait une liste. Puis c'était la liste de Dieu, ils avaient pris ça. Ils avaient pris l'Ancien Testament, puis eux autres, ils avaient tout regardé, toutes les listes de choses à faire puis à ne pas faire, puis ils essayaient de le suivre. Puis eux autres, à cause de ça, ils disaient, à cause de ça, on est les enfants de Dieu. Nous autres, là, on l'a l'affaire. C'était qui ces personnes-là? Les pharisiens. C'était-tu des gentils ou des méchants, eux autres, les pharisiens? C'était-tu des gentils ou des méchants? allez lire dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est le monde avec qui Jésus s'est pogné le plus souvent. Il n'y avait jamais personne avec qui Jésus a été plus sévère que les pharisiens. Eux autres, là, ils avaient leur liste. En plus de ça, il y avait toute une autre liste qu'eux autres, ils avaient ajoutée en plus de ça. Puis eux autres, ils disaient, nous autres, on a l'affaire. Toi, tu ne suis pas notre liste. Toi, tu n'es pas correct. Eux autres, c'est ça qu'ils faisaient. Puis Jésus, il ne s'entendait pas bien avec eux autres. Puis au bout du compte, c'est eux autres qui ont tout manigancé pour que Jésus se ramasse sur la croix. C'est à ça que ça conduit, de juste suivre une liste, uniquement. Si on fait juste de prendre une liste, puis on prend ça hors contexte, on prend un passage de même, puis on dit, OK, renoncer au mensonge, OK, fait que là, il ne faut pas que je mente, mais dire la vérité, OK, si vous mettez en colère, je ne me mets pas en colère, bon, alors je fais ça, je dois être un bon chrétien, ou je dois être un chrétien, je dois aller au ciel à cause de ça. Ça, c'est un autre danger. On n'est pas chrétien parce qu'on suit une liste de règlements. Ça, je veux que vous compreniez ça ce matin. On n'est pas chrétien parce qu'on suit une liste de règlements. Ça se peut qu'il y en ait ici, là, que vous pensez, vous êtes à l'église, vous avez commencé à venir à l'église, vous amenez vos enfants à l'église, vous donnez à l'église, puis à cause de ça, quand vous allez arriver au ciel, Jésus va vous laisser entrer. Vous pensez que vous êtes chrétien parce que vous suivez une liste de règlements. On n'est pas chrétien à cause qu'on suit une liste de règlements. On est chrétien à cause de ce que Jésus a fait à la croix. On est chrétien parce qu'il y a un moment dans notre vie où le Saint-Esprit est venu nous convaincre de nos péchés. On a reconnu qu'on était pécheurs, que Jésus est venu nous briser et qu'on a décidé de rendre Jésus le maître de notre vie. On est chrétien à cause que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. C'est à cause de ça qu'on est chrétien. C'est pas à cause qu'on suit une liste de règlements. C'est plutôt, la façon que ça marche, c'est que plutôt après qu'on soit devenu des chrétiens, après que ce changement-là soit fait dans notre vie, à cause de l'amour que Jésus a eu pour nous, en réponse à ça, on veut suivre Jésus, on veut lui plaire. Et à cause que lui, c'est le maître de notre vie, on veut agir de façon à ce qu'on puisse lui plaire. On veut faire ce que lui veut qu'on fasse. Une question pour vous. Si Jésus te demandait « Pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? » Qu'est-ce que tu répondrais? Si tu mourais à matin, tu t'en allais au ciel devant Jésus. Jésus te disait « Pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? » Qu'est-ce que tu répondrais? Est-ce que tu dirais « J'ai suivi ta liste de commandements. Moi, je n'ai pas menti, j'ai payé mes impôts. J'ai été gentil, j'ai bien élevé mes enfants. » Je ne sacrais même pas. J'ai parlé de Jésus à mes collègues de travail. Ou est-ce que vous diriez tout simplement, je ne suis pas digne? Mais Jésus, il est digne, je suis avec lui. J'espère que c'est ça que vous diriez si jamais Jésus vous demandait pourquoi il devrait vous laisser entrer au ciel. Un autre point que je veux faire aussi, c'est qu'on est sauvé par la foi. Alors la vie est chrétienne aussi, se vit par la foi. Ça, là, c'est quelque chose que j'ai de la misère avec encore. Souvent, là, je pense que, OK, je suis sauvé par la foi. Ça, là, je le sais. C'est rien que je fais qui fait que je suis un chrétien. C'est tout à cause de ce que Jésus a fait. Ça, c'est beau. Mais là, après ça, le reste de ma vie chrétienne, là, je passe mon temps à me dire, ouais, mais là, OK, je sais, je suis sauvé à cause de ce que Jésus a fait. Mais pour être un bon chrétien, il faut que je fasse des bonnes affaires. Hein? Ça vous arrive-tu, ça, de penser ça? Est-ce que je suis tout seul? OK, c'est bon. Vous êtes avec moi. Hein? Mais non, c'est pas de même. On est sauvé par la foi. Ensuite de ça, le reste de la vie chrétienne se vit aussi par la foi. On ne peut pas dire, je sais que je suis sauvé grâce à ce que Jésus a fait. Mais maintenant, il faut que je fasse des choses pour être un bon chrétien. On ne peut pas dire ça. On est sauvé par la foi. La vie chrétienne aussi se vit par la foi. Si on suit une liste de choses à faire, c'est pas pour être bon dans les yeux de Dieu. C'est tout simplement parce que c'est ce qu'il nous demande de faire. On le fait parce qu'on l'aime. Pas pour lui plaire, pas pour gagner sa faveur, mais parce qu'on a déjà sa faveur. De dire qu'on est des bons chrétiens à cause des choses qu'on fait, c'est insultant pour Dieu. Pensez-y, Jésus il est mort pour qu'on soit non seulement des chrétiens, mais aussi pour qu'on soit des bons chrétiens. Ce qu'on fait, c'est répugnant aux yeux de Dieu. C'est dégueulasse. Quand on décide de faire quelque chose, puis on dit, bon, moi, je vais décider de servir dans l'Église, je vais essayer de je vais donner à l'Église, je vais faire ça pour que Dieu m'aime. C'est dégueulasse pour lui. Jésus est allé mourir à la croix pour ça, justement, pour qu'on puisse avoir la faveur de Dieu. On n'a pas besoin de faire rien d'autre. Dieu, il n'est pas impressionné par ce qu'on fait, mais il nous aime. Ça, là, si vous retenez rien d'autre de ce que j'ai dit ce matin, retenez ça, s'il vous plaît. Dieu, il n'est pas impressionné par ce que vous faites. Dieu vous aime. Puis c'est encore mieux qu'il vous aime. Parce que s'il peut être impressionné par ce que vous faites, s'il peut être impressionné par ce que je fais, il faut continuer à performer pour qu'il continue à nous aimer. Mais bien au contraire, il nous aime direct en partant. On commence avec sa faveur. Dieu ne m'aime pas à cause que je suis en avant ce matin, il m'aimait bien avant ça. Dieu vous aime de la façon que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes en Jésus, il vous aime de la façon que vous êtes aujourd'hui. Il n'aime pas une version antérieure de vous autres quand vous allez avoir commencé à servir Dieu, quand vous allez avoir commencé à parler de Jésus à vos collègues de travail, quand vous allez avoir commencé à parler avec vos enfants de Jésus. Non, Dieu vous aime de la façon que vous êtes aujourd'hui. Je vous donne un exemple de ça. Il y a environ 6 ans, ma première nièce est née. Elle s'appelle Kaylee. Vraiment une belle petite fille. Puis elle, la première fois que je l'ai tenue, je me souviens, j'étais en bas. J'avais 16 ans à ce temps-là. Puis c'était la première fois que je la voyais. Ma belle-sœur, elle l'avait, puis après ça, elle me l'a passée. Puis là, je me souviens, je l'ai tenue. Puis là, elle s'est accotée sous moi. Puis là, je me souviens, mon cœur a fondu. C'était quelque chose. Puis je l'ai aimée tout de suite. Vraiment, là, je l'ai aimée tout de suite. Je la tenais, là, puis là, je vais m'acheter. Oh, c'est bien cute. Oh, vraiment, là. J'aurais vraiment été horrible, un oncle horrible, de la regarder puis de dire, t'es bien cute, là, mais, tu sais, je t'aime pas tout de suite. Je t'aime pas. Peut-être d'une couple d'années, là, quand que tu vas avoir commencé à jouer avec moi, quand tu vas pouvoir m'amener une sandwich quand j'ai faim, tu sais, quand tu vas pouvoir commencer à me servir, là, peut-être, ben là, je vais commencer à t'aimer, là, mais d'ici là, tu sais, je t'aimerais pas. Non, je l'ai aimé tout de suite. Puis Dieu, il est de même avec nous aussi. Dieu nous regarde comme des petits-enfants. Il n'est pas en train de nous dire, « Je vais t'aimer juste quand tu vas avoir commencé à parler à tes collègues de travail de Jésus. Je vais t'aimer juste quand tu vas avoir commencé à donner de l'argent à l'Église. » Non, non, je t'aime tout de suite tel que t'es. Et à cause qu'il nous aime, il veut nous voir grandir. Tout comme que moi aussi, j'aimais Kaylee tout de suite, mais aussi je voulais la voir grandir. Alors Dieu, il n'est pas impressionné par nous, mais il nous aime, tel qu'on est. Maintenant, je viens de vous dire pourquoi ça ne sert à rien de suivre une liste de règlements. Mais la liste de règlements est là, hein? La liste de choses à faire est là dans la Bible. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait la suivre d'abord? Pourquoi est-ce qu'elle est là? On sait que Dieu ne radote pas. Toute parole est inspirée de Dieu et est utile. Pourquoi est-ce qu'on devrait suivre une liste de règlements qui est dans la parole d'abord? Eh bien, pas pour impressionner Dieu, pas pour impressionner le monde alentour, pas non plus pour se sentir bien en dedans, mais parce que nous sommes de nouvelles personnes qui ont de nouveaux cœurs, de nouveaux désirs. Quand Dieu nous sauve, quand on devient un chrétien, Dieu change notre cœur de pierre, nous donne un cœur de chair qui a des nouveaux désirs, qui veut servir Dieu. Alors, ça ne devrait pas être, quand on relit une liste de règlements de même, ça ne devrait pas être « Ah non, je suis obligé de ne pas mentir. Ah non, je suis obligé de dire la vérité. Ah non, je suis obligé de travailler de mes mains et puis pas voler. » Non, ça devrait être ce qu'on veut faire. On est des nouvelles personnes, les chrétiens. On a des nouveaux désirs. Les choses qui nous sont données à Dieu de faire, nous sont données de Dieu à faire, c'est des choses qu'on devrait vouloir faire. C'est pourquoi aussi, le premier aspect de la liste de choses à faire, c'est de se dépouiller de l'homme ancien et de revêtir l'homme nouveau. On va lire à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le premier aspect de la liste de choses à faire, c'est de se dépouiller de l'homme ancien. On s'en débarrasse, on l'enlève. Tout notre ancien style de vie, on l'enlève. Dieu nous aide à faire ça. On l'enlève comme je peux enlever mon veston, là. Je le ferai pas. Mais comme je peux enlever mon veston, on l'enlève, notre homme ancien. Et ensuite de ça, on devient une nouvelle personne. On revêt l'homme ou la femme nouveau ou nouvelle. Ensuite de ça, on tombe dans le côté un peu plus pratique. À cause que nous sommes des nouvelles personnes. Je ne peux pas mettre assez d'emphase là-dessus. C'est à cause que nous sommes des nouvelles personnes qui ont des nouveaux cœurs et des nouveaux désirs. À partir de là, il faut, au verset 25, ne pas mentir. Et puis là, vous allez voir dans le passage, c'est tous des contrastes. Ne pas mentir, mais plutôt le contraire de pas mentir, c'est quoi? Dire la vérité. Vous voyez ça au verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncer au mensonge, parler selon la vérité. Maintenant, c'est quoi des mensonges qu'on raconte souvent? Là, je sais, là, je ne parle pas à des petits-enfants. Souvent, les adultes, on se dit, ben non, moi je ne mens pas. Moi, c'est mes enfants qui font ça. Moi, quand je demande s'ils ont mangé le dernier biscuit, non. On pense que le mensonge est un problème d'enfant. Mais moi, j'en vois beaucoup des mensonges. Je suis sûr que si j'étais pour demander à chaque personne ici comment ça va, je suis sûr que 99,9% du monde qui sont ici ce matin me répondrait bien. Puis pour la moitié du monde ici, ce serait un mensonge. J'ai-tu raison? Je pense que oui. Peut-être pas la moitié, en tout cas, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais je suis sûr que la plupart du monde me dirait bien, mais ce serait un mensonge. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place quand ça ne va pas bien? Qu'est-ce qu'on peut dire à notre frère ou soeur dans le Seigneur? Je sais, des fois, on ne veut pas en parler. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des fois? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ça pourrait aller mieux. On pourrait dire aussi... Ce qu'on peut dire aussi... Ce qu'on peut dire aussi, c'est... Ça va pas bien. S'il te plaît, peux-tu prier pour moi? J'ai pas le goût d'en parler, mais peux-tu prier pour moi, s'il te plaît? L'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine serait-tu une belle place pareille si on était du monde qui était honnête les uns avec les autres? On savait vraiment comment ça allait, puis on pouvait prier l'un pour l'autre. Un autre mensonge aussi que je sais, je l'ai pas expérimenté, ben encore. J'ai entendu, là, je vais prendre un exemple dans un mariage. Je suis pas marié, donc je ne sais pas, du moins par expérience. Mais il paraît que des fois dans les mariages, ça arrive qu'il y en a un qui va pas. Puis là, des fois, bon, mettons, je veux dire comme exemple, des fois c'est la femme qui va pas. Puis là, après ça, Marie s'en vient et dit, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Rien! C'est-tu un mensonge, ça, des fois? Des fois, ça peut être le mari aussi. Hein? Des fois aussi, c'est la femme qui dit qu'est-ce qu'il y a, puis le mari aussi qui dit rien. On sait bien quand. On sait tout de suite quand quelqu'un dit rien que ça. Il n'y a pas rien. C'est un, hein, ça vous arrive-tu de mentir comme ça? Ça vous arrive-tu? Qu'est-ce qu'on peut dire à la place? Parce que ça ne dit pas juste de ne pas mentir. Ça dit aussi de dire la vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de pas à place de juste dire rien? On peut dire d'après toi. On peut demander d'après toi qu'est-ce qu'il y a. On peut dire aussi, je pense qu'une bonne affaire qu'on peut dire aussi, c'est ça va pas bien. Des fois, si on n'a pas le goût d'en parler, on peut dire je vais t'en parler tantôt, mais il y a quelque chose qui va pas. Plutôt que de mentir et de causer beaucoup de frustration, mentez pas. Dites la vérité. Ça, c'est juste deux exemples là, que je donne. Dites la vérité les uns aux autres. Une autre chose qui est marquée dans le passage, il faut aussi se mettre en colère, mais sans pécher. Verset 26, « Si vous mettez en colère, ne péchez point. » C'est correct de se mettre en colère. Ça, je sais, là, c'est débile pour certaines personnes parce que là, tu sais, tout de suite, c'est « Ah, ben là, tu t'es fâché après moi. T'es pas correct, tu t'es fâché après moi. » Non, non, on a le droit de se fâcher. Quand vos enfants désobéissent, j'espère que vous vous fâchez après eux. Pas de façon à perdre, à péter les plombs puis à faire toutes sortes de choses que vous regrettez. Mais quand même, j'espère que vous vous fâchez. Il y a des choses qui devraient vous fâcher. Moi, si quelqu'un rentre chez nous puis décide de violer ma sœur, je vais être très fâché. Mais ne péchez point. Il y a un exemple de ça dans la parole, du monde qui sont fâchés. Il y avait raison de se fâcher. Mais qu'eux autres, ils ont vraiment été trop loin. Dans Genèse, sans avoir besoin de se tourner, il y avait le patriarche Jacob, que lui avait 12 fils et il y avait probablement plusieurs filles, mais il y a juste une fille qui est mentionnée, sa fille Dina, que elle s'est faite violer une fois. Puis ses frères, à elle, qui étaient assez protecteurs, qu'eux autres, ils ont décidé, on est fâchés, et avec raison, il y avait raison d'être fâché par ça. Par contre, eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont dit au gars qui avait violé leur sœur et qui voulait se marier avec, il a dit, c'est beau, tu peux te marier avec, mais avant, il faut que toi et tout le monde dans ta ville, il faut que vous fassiez circoncire. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, quelques jours plus tard, pendant qu'ils étaient encore en grande douleur, les deux gars sont rentrés avec leurs épées et ils ont tué tout le monde. Ça, c'est un exemple d'être en colère, mais de pécher. C'est correct de se mettre en colère, mais il ne faut pas pécher. Il ne faut pas péter les plombs. Aussi, il ne faut pas rester en colère longtemps. Je retourne à mon exemple dans un mariage. Je sais que, encore une fois, je ne suis pas marié, je ne parle pas à partir de mon expérience, mais je sais que dans des mariages aussi, des fois, ça arrive que, bon, il y a des chicanes. J'ai de la misère à comprendre ça, mais je sais, des fois, il y a des chicanes puis on se met en colère, hein? Puis c'est ça. Puis des fois, là, je sais, ça peut durer des jours et des jours. Et ça, je comprends pas ça encore. Mais est-ce que j'ai raison? Ça arrive-tu des fois, ça peut durer plus qu'une journée quand il y a des chicanes? Pas pour Will, je sais, Will. Pas toi, là. Mais oui, des fois, ça, je sais, ça peut durer longtemps, des chicanes. Des fois, notre colère peut rester longtemps. Des fois, dans des couples, ça va durer des jours. Des fois, ça va durer des semaines. Il y a des couples qui se parlent pas, qui font juste comme si de rien n'était. C'est deux étrangers qui vivent dans la même maison. La parole dit, ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. C'est un excellent principe à avoir dans la vie, c'est de ne pas aller te coucher si tu es encore en colère. Peu importe c'est qui, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec un ami, couche-toi pas si tu es encore en colère. Règle ça tout de suite, avant de te coucher. Laisse pas ça traîner. Sinon, ce que la parole aussi dit, au verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Les deux vont ensemble. Quand on reste en colère, on donne accès au diable. Quand vous restez en colère contre quelqu'un pour quelque chose, même si c'est valide, là, même si vous avez raison d'être en colère, si vous restez en colère, vous donnez accès au diable. Satan peut venir vous attaquer. Vous êtes une proie facile pour lui. Puis des fois, ça arrive que ça vient tellement hors de proportion que des fois, on se souvient même plus pourquoi on est en colère. Tout ce qu'on sait, c'est « je suis en colère, je sais pas pourquoi, ma relation avec toi est détruite, puis à cause de ça, ça marche plus notre affaire. » Faut pas donner accès au diable en restant en colère. Une autre chose aussi, au verset 28, « faut ne pas voler ». Et aussi, je vous rappelle que c'est à cause que nous sommes de nouvelles personnes. Encore une fois, je veux vous rappeler que c'est pas pour plaire à Dieu. C'est pas pour gagner la faveur de Dieu plutôt. C'est pas pour gagner la faveur de Dieu qu'on veut faire ces choses-là. C'est parce qu'on aime Dieu déjà. C'est parce que ça doit être nos désirs les plus profonds. Il faut premièrement ne pas voler, mais plutôt le contraste. Travailler pour pouvoir donner. On voit ça au verset 28. Que celui qui ne dérobait plus, qui dérobait, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. J'aime surtout la partie du verset où ça dit « en faisant de ses mains ce qui est bien ». Aussi, j'aime aussi la façon que c'est traduit en anglais, comment ça dit « faisant quelque chose d'utile avec ses mains ». C'est une autre façon de le traduire. Faisant de quoi d'utile avec ses mains. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains, vous autres? Est-ce que vous faites de quoi d'utile? Les hommes, je m'adresse à vous. Est-ce que vous, quand vous revenez du travail, est-ce que vous passez votre temps juste sur la télévision en faisant ça de même avec vos mains? Ou est-ce que vous prenez le temps que vous avez pour lire la Bible avec vos enfants, pour enseigner vos enfants, pour passer du temps avec votre femme? C'est bien quelque chose qui me dérange dans l'Église, c'est le fait que je vois que nos enfants ne sont pas très bien enseignés par leurs parents. Je travaille beaucoup avec les enfants. Je sais exactement c'est lesquels enfants qui sont bien éduqués par leurs parents. Je sais exactement c'est lesquels enfants que leurs parents passent du temps avec eux autres dans la prière, à lire la Bible avec eux autres. Je sais exactement c'est lesquels. Et puis, ça me dérange beaucoup de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent l'histoire de David et Goliath, savent l'histoire de Noé dans l'arche, puis ils ne savent rien d'autre. Ça me dérange beaucoup. Le temps que vous avez, les pères, surtout vous autres, le temps que vous avez en revenant du travail, servez-vous-en comme il faut pour éduquer vos enfants, pour passer du temps avec votre femme, et puis faites de quoi de vos mains qui est utile. Ça ne va pas juste dans le domaine de la famille, dans l'éducation à vos enfants. Il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire. Adama me racontait qu'il y avait un monsieur dans l'assemblée il avait décidé que, en plus de ce qu'il donnait normalement à l'assemblée, si jamais il avait l'occasion de pouvoir faire du temps supplémentaire au travail, tout l'argent qu'il allait faire, il allait le donner à l'assemblée. Parce que c'était un monsieur qui était généreux. Puis ça, je trouve ça génial. C'est vraiment le fun de pouvoir voir ça. Quelqu'un qui va décider que je vais donner à Dieu tout le temps supplémentaire que je fais, là, je ne le prendrai pas pour moi, je vais le donner à Dieu. C'est bon d'être généreux de même. Travailler pour pouvoir donner. Aussi, une autre chose, c'est ne pas dire des choses méchantes, mais plutôt le contraire, c'est dire des choses qui édifient le monde. Au verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Plutôt que de dire des choses qui détruisent le monde, dites des choses pour les encourager. Là, je sais, il y a beaucoup de monde que vous regardez ce verset-là, la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous lisez le verset 29, où ce que ça dit, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise, vous pensez, ah, ça veut dire qu'il ne faut pas sacrer. Je suis d'accord, il ne faut pas sacrer. Mais ce verset-là, dans ce contexte-là, il n'est pas en train de parler de pas sacré. Il est en train de parler de comment qu'on parle les uns aux autres. Il est en train de parler de comment qu'on s'encourage. Donc, au lieu de critiquer le monde, de les rabaisser, dites des choses pour les édifier. Alors, les femmes, plutôt que de critiquer vos maris, de dire « on passe pas assez de temps ensemble » puis toutes ces affaires-là, encouragez-les pour ce qu'ils font de bien. Marie, plutôt que de critiquer vos femmes pour ce qu'ils font pas, encouragez-les pour ce qu'ils font de bien. tout le monde dans l'Église, plutôt que de critiquer vos leaders pour ce qu'ils font de pas correct, encouragez-les pour ce qu'ils font de bien. Encore une fois, à cause que nous sommes de nouvelles personnes, il faut ne pas attrister le Saint-Esprit. Au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Je pense que ça l'englobe pas mal d'affaires. « N'attristez pas le Saint-Esprit. » quand on devient un chrétien, on est une nouvelle personne, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, vient habiter en nous. Il nous dirige, il nous aide, il nous change. Mais aussi, quand on pêche, ça l'attriste. N'importe quel péché qu'on peut commettre, ça l'attriste. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Une autre chose au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Je sais, c'est beaucoup de gros mots, mais j'ai donné des petites définitions faciles. Ne pas avoir d'amertume, c'est qui est de garder de la colère en dedans. Quand quelqu'un te fait quelque chose, des fois c'est valide, des fois ça peut être quelque chose de gros, des fois ah, il m'a traité de nom, quelqu'un a été vraiment méchant avec moi. Mais quand on garde ça en dedans, ça c'est de garder de l'amertume. C'est justement ce que la Bible dit de ne pas faire. L'animosité, ce qui est une grosse colère ouverte, de colère, de clameur, c'est quand on se crie après. Je sais, ça n'arrive jamais au monde, dans l'Église, de se crier après. De calomnie, quand on se parle dans le dos. Non plus, ça n'arrive jamais. Hein? Une chance, hein? Non, pas de calomnie non plus. Ou n'importe quelle sorte de méchanceté. N'importe quelle sorte de méchanceté, n'importe quelle sorte de clameur, de colère. Débarrassez-vous de ça. Et aussi, finalement, au verset 32, il faut être bon l'un envers l'autre en se pardonnant. Ça dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu vous a pardonné de tous vos péchés. Tous vos péchés que vous avez, Dieu vous les a pardonnés. Puis, je pense qu'une de mes paraboles préférées que Jésus a racontée, c'est celle que il raconte qu'il y avait un gars qui devait un montant extraordinaire d'argent, là, l'équivalent des millions et des millions de dollars à son maître. Et puis, il ne pouvait pas le repayer. Son maître a juste dit, « C'est beau, je te pardonne. » Et puis, lui, il s'est reviré de bord. Le gars qui s'est fait pardonner s'est reviré de bord. Il est allé voir son chum qui lui devait 5 piastres. Puis il l'a pris, puis il a dit, « Toi, là, tu me dois mon argent. » Puis il voulait absolument son argent, il ne voulait pas le laisser aller. On regarde ça, puis on dit, « Ben voyons, on voit que le gars, il a fait ça. Il s'est fait pardonner un montant exorbitant d'argent. Puis après ça, il voulait même pas pardonner son chum qui devait 5 piastres. » On regarde ça, puis on se dit, « Voyons, non, c'est débile. » Mais savez-vous que vous êtes exactement pareil? Et moi aussi, je suis exactement pareil quand on décide de ne pas pardonner à quelqu'un. Nous autres, on devait 5 millions de dollars à Jésus. Au moins, aucun moyen qu'on puisse leur payer. Il nous l'a pardonné. Nous autres, quand on se revire de bord, là, puis on dit à notre ami, « Toi, là, tu m'as fait du mal. Je ne veux pas te pardonner. » On est exactement comme le gars qui ne voulait pas pardonner la dette de 5 piastres. On est exactement pareil. La parole nous dit de se pardonner, d'être bon l'un envers l'autre, de se pardonner. Alors, en conclusion, je reviens à ce que je disais au début. Avez-vous été pardonné de vos péchés? Et si oui, comment? Est-ce que vous croyez que vous êtes pardonné de vos péchés à cause des choses que vous faites ou est-ce que vous êtes pardonné à cause de ce que Jésus a fait? Pensez-y comme il faut. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui ment? Est-ce que vous mentez? Peut-être que aussi dans les exemples que j'ai donnés ce matin, vous êtes reconnu. Vous avez réalisé que vous mentez à votre conjoint ou à vos amis dans n'importe quel domaine de votre vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui mentez? Êtes-vous une personne de colère? On a vu, c'est pas la colère, c'est pas juste d'avoir les deux bras dans les airs puis de crier puis La colère aussi, des fois, c'est de garder de quoi en dedans, de parler dans le dos du monde. La colère, ça peut être plein d'affaires. Êtes-vous une personne de colère? Si oui, il faut donner cette colère-là à Dieu, s'en repentir. Et aussi, est-ce qu'il sort de votre bouche des bonnes paroles qui servent à édifier le monde? Est-ce que vous vous servez de votre bouche pour détruire le monde, pour les rabaisser? Ou est-ce que vous vous servez de votre bouche pour encourager le monde, pour les relever, pour les encourager? Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, juste pour finir, j'aimerais qu'on prenne juste deux minutes, on va juste se pencher nos têtes, et puis on va juste demander pardon à Dieu. N'importe qui ici sait qu'il y a des places dans sa vie qui a besoin de changement, dans les choses qu'on a lues ce matin. Tout le monde ici, on a des endroits où on a besoin d'amélioration. Alors, ce que je veux qu'on fasse, il n'y aura pas de musique ou rien, je ne suis pas là pour vous manipuler, mais tout simplement, prenez un petit deux minutes pour prier, pour demander à Dieu, pour demander pardon à Dieu qu'il puisse vous pardonner de ces péchés-là, les péchés que vous êtes peut-être reconnus ce matin. Et si jamais aussi vous avez reconnu que vous êtes pas vraiment des chrétiens, vous avez réalisé que vous pensiez que vous étiez chrétien à cause des choses que vous faisiez et non à cause de ce que Jésus faisait. Ça aussi, ça pourrait être un bon temps pour demander pardon à Dieu pour vos péchés, pour aller au pied de la croix, pour demander pardon à Jésus. Alors, sur ce, on va prendre un petit temps de prière et puis après ça, je vais terminer. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je te remercie qu'elle nous éclaire. Je te remercie, Seigneur, que tu es venu mourir à la croix pour nos péchés et puis qu'on n'a pas besoin de rien faire pour avoir ta faveur, qu'on l'a déjà. Je te prie, Seigneur, s'il y a du monde ici qui ont réalisé qu'il y avait des choses à changer dans leur vie, qu'ils avaient besoin de faire de quoi d'utile avec leurs mains plutôt que d'être paresseux, qui avaient réalisé qu'il y avait du mensonge dans leur vie, qui avaient réalisé qu'il y avait de la colère dans leur vie. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont confessé ces péchés-là. Je te prie, Seigneur, aussi pour ceux qui ont réalisé que leur justice venait d'elle-même et pas de toi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse vivre pour toi à tous les jours. Je te prie aussi, Seigneur, pour la réunion de cet après-midi, que tu puisses aussi nous remplir de ton Saint-Esprit, qu'on puisse bien participer, puis bien participer à l'avancement de ton royaume. Au nom de ton Fils que je te prie. Amen.